Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Maïmouna Doucouré, scénariste et réalisatrice, qui a notamment réalisé le film Mignonne, actuellement à l'affiche au cinéma. Dans son film, Maïmouna met en lumière les dangers de l'hypersexualisation des adolescentes sur les réseaux sociaux, la difficulté de se construire en tant que femme, de trouver sa féminité, avec toujours ce dilemme entre le trop et le pas assez. Maïmouna nous raconte dans cet épisode ce qui la pousse à écrire, à filmer, à réaliser, comment est-ce qu'elle en est arrivée là aujourd'hui et quel est réellement le processus de réalisation d'un film. Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie du cinéma est un milieu qui est loin d'être inclusif et j'ai vraiment été heureuse de pouvoir échanger avec Maïmouna en espérant qu'elle représente la nouvelle génération du cinéma français et international, un cinéma sincère, inclusif et engagé. Si vous appréciez écouter In Power, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de prendre quelques secondes pour vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis désormais ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Maïmouna. Bonjour Maïmouna.
Bonjour.
Bienvenue sur In Power, je suis ravie de te recevoir. C'est la première fois que je reçois une réalisatrice,
donc
j'ai plein de questions. Mais la première, c'est celle que je pose à tous mes invités au début. Est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ?
Alors, me présenter, je m'appelle Maïmouna Doucouré, je suis réalisatrice et là je viens de sortir un film qui s'appelle, enfin mon premier long métrage qui s'appelle Mignonne, qui est actuellement au cinéma.
Ouais, est-ce que tu peux nous dire peut-être aussi qui était la Maïmouna avant ce film? Même moi j'aime toujours savoir comment les personnes étaient enfants, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire quand... Est-ce qu'à 8 ans tu savais que tu voulais être réalisatrice?
Alors, j'ai toujours aimé le cinéma, je regardais beaucoup de films, j'ai toujours été fascinée par les histoires, les contes, et c'est vrai que le cinéma m'appelait, mais j'y croyais pas, je me disais que ça m'était pas forcément destiné, et je me souviens pas, en tout cas, avoir formulé consciemment le fait que je voulais faire tel ou tel métier, je savais que ça me plaisait, le monde de ce monde-là imaginaire d'histoire. Et puis, j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours eu des profs, enfin, je sais pas si c'est de la chance ou... Enfin, bref, je crois pas trop au hasard, mais là, en tout cas, mes profs ont souvent été passionnés de théâtre et de cinéma, donc nous faisaient beaucoup de sorties au cinéma ou nous faisaient jouer des pièces de théâtre. Et puis j'adorais ça, quoi.
Ouais, t'as su que c'était tout de suite une passion, en fait.
Ouais, je sentais quelque chose qui me faisait vibrer.
Ouais.
Quand j'étais sur scène, quand je jouais au théâtre ou quand on était devant un grand écran et qu'on...
Et alors, qu'est-ce qui a fait que... Parce que parfois, on a des passions, mais on ne se dit pas forcément qu'on peut en faire notre métier, notre carrière. Est-ce que toi, tu as eu cette réflexion? Comment ça s'est passé, peut-être, au moment où tu as dû choisir peut-être ce que tu allais faire après le lycée, après le bac?
Alors, vraiment, je pense que cette passion m'a quand même accompagnée pendant de nombreuses années. Hein. Quand j'étais au collège, je continuais à faire du théâtre, j'ai écrit plein de choses. J'avais des cahiers comme ça où j'écrivais tout ce qui me passait par la tête, plein d'histoires. Et puis au lycée, pareil, j'étais en scientifique, mais j'ai fait option théâtre. Enfin voilà, je suis toujours restée connectée à ça. À la fac, j'ai décidé de faire une fac de biologie parce que j'aimais bien la bio. Et puis je m'étais quand même dit, moi, dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose que j'aime, même si le cinéma, j'y croyais pas et que je pensais pas que ça pouvait être quelque chose de réalisable. Je me suis dit, bon, au moins, la bio, ça me plaît, ça me parle.
Ouais, ouais.
Donc, j'ai fait de la bio et même en parallèle de la bio, je faisais partie d'une troupe de théâtre et je continuais à écrire des scénarios.
Mmh.
Et puis, ça s'est passé en 2013. Un peu par hasard, j'ai participé à un concours de scénario.
Ouais.
Et là, on m'a appelé en me disant « Bravo, vous faites partie des lauréates. Vous avez 3 mois pour réaliser un film. » Donc, c'était fou. J'avais déjà quand même vu le processus parce que j'avais donc fait une école de théâtre. J'avais joué dans quelques courts-métrages, des séries web, etc. Donc, je voyais un peu comment ça se passait, mais... Quand on est à la place, enfin quand la caméra est sur nous, on comprend pas vraiment tous les mécanismes. On voit pas vraiment comment ça fonctionne. Et donc là, j'ai appelé des amis réalisateurs. pour leur dire que j'avais un film à faire, que je ne savais pas du tout par quoi commencer. Les caméras, je ne savais pas comment ça fonctionnait, quoi. Et je me souviens que j'avais appris ce que c'était qu'un découpage technique sur Internet. Je regardais aussi sur Internet plein de choses. Et c'est en faisant vraiment que j'ai appris. Mmh.
Est-ce que là, du coup, tu avais terminé tes études quand tu as participé à ce concours ou c'était en parallèle de...
Alors, j'ai eu des études... Lors de mes études, c'était j'étais assez tiraillée. J'arrêtais parce que ma passion m'appelait. Et puis en même temps, une fois que j'arrêtais, je culpabilisais d'avoir arrêté. Parce que je me disais, non, mais il faut absolument que moi, j'ai un diplôme. Donc j'arrêtais. Et finalement, j'ai été jusqu'à la licence. Donc j'ai eu ma licence. J'ai commencé le master. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai une vie. Je vais aller au bout de ce que j'ai envie de faire. Et je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Et là, j'ai décidé d'arrêter
de concentrer sur le théâtre.
D'aller vers cette voie. Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est fort parce que c'est souvent ça qui est difficile à faire en fait, c'est d'oser sauter le pas
et
se consacrer à ce qui nous plaît vraiment. Souvent, il y a le poids de la société, il y a le poids de la famille. Est-ce que toi, tu as dû un peu t'imposer ou est-ce que dans tous les cas, tu étais soutenue quels que soient tes choix ?
Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mon discours lors des Césars, quand j'ai reçu le César en 2017.
Ah non, je crois que je ne connaissais pas encore à cette époque-là.
Pour mon court-métrage Maman. Ouais. Et j'avais le César dans les mains. Bon, j'étais en larmes, évidemment, extrêmement bouleversée, émue par ce prix. Et j'expliquais que le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais faire du cinéma, elle me disait, c'est pas pour nous. Est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent dans l'univers cinématographique français? Et je tenais mon César en disant, maman, j'espère que j'ai réussi à te prouver le contraire aujourd'hui avec ce prix, ce César. Donc oui, c'est sûr que quand on était enfant, on voyait très peu de personnes qui nous ressemblaient sur les écrans, de télévision ou même au cinéma, dans le cinéma français. Mmh. Et à partir de là, c'est difficile de se projeter, de se dire que c'est possible pour nous aussi.
Ouais.
Et c'était difficile pour moi de contredire ma mère.
Ouais, mais t'as ici, enfin ça t'a pas empêché d'y croire quand même et de te, enfin en fait t'as écouté ta passion plus que.
Ouais, mais tardivement quand même. Ouais. Je suis venue assez tardivement. L'auto-inhibition a été très présente pendant de nombreuses années. C'est seulement en 2013
que tu t'es dit là.
Que là avec ce concours là où, vous savez, moi je pense vraiment que dans la vie on a toujours des choix qui s'offrent à nous et ces choix-là peuvent déterminer notre avenir. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais vraiment un choix à faire. Et je suis contente d'avoir pris celui-là et d'avoir osé, de m'être jetée dans le vide parce que finalement, finalement, j'ai plané, j'ai kiffé.
C'est le principal, c'est vrai. Qu'est-ce qui a fait que... Bah parce que tu disais, tu jouais quand même dans une troupe de théâtre, tu évoluais dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit qu'en fait, c'était réalisatrice que tu voulais être et pas actrice, par exemple ?
Bon, au départ, je pensais vouloir être actrice. J'avais quand même des choses à raconter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écrivais des scénarios. Mmh. Et en faisant ce court-métrage dans le cadre du concours, là, le concours que j'avais remporté, j'ai pris un tel plaisir à diriger les acteurs... Et surtout à raconter, enfin en tout cas à mettre en image ce que j'avais en tête, ça a été comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, ma place, elle est là. Mmh. Et je crois vachement au destin et je me suis dit, si j'ai fait tout ce chemin-là, si j'ai été, enfin j'ai fait des cours de théâtre, etc., finalement, c'est pas pour que moi je sois devant la caméra, c'est pour pouvoir avoir les clés pour diriger mes acteurs au mieux. Et je suis très très bien à la place de réalisatrice. Je pense avoir trouvé
ta place.
Ma place quoi. Ouais.
Et du coup, donc ton premier court métrage, c'est un court métrage qui s'appelle Maman. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton processus de création? Enfin, j'imagine qu'il y en a eu un. Qu'est-ce qui a fait que ça a été Maman, ton premier court métrage, et pas un autre?
Bah, avant ça, il y avait Cache-Cache dans le cadre du concours, et Maman, c'était mon premier film professionnel. Et au départ, c'est fou parce que quand on commence comme ça à écrire un premier film de façon professionnelle, on sait qu'il y aura des financements, etc. On se dit qu'il y aura probablement une visibilité. La question se pose, qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter, vraiment? Et là, au départ, je me suis dit... j'avais cette histoire-là, hein, Maman, qui raconte l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui voit son père revenir d'un voyage au Sénégal avec une seconde femme. et face au désarroi de sa mère, décide d'agir à la place de sa mère. Et donc, c'est quand même plutôt inspiré de mon enfance. Moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Toutes ces questions-là de la souffrance des femmes et des enfants avec lesquels on oublie de communiquer. Donc, ce sont des sujets que je connais très bien, que je maîtrise. Et je me disais au départ, qui ça va intéresser de voir une famille noire, française, en huis clos. C'est tellement rare dans le cinéma français que j'ai eu un doute quant à ma légitimité d'apporter cette histoire. Et même si, en tout cas, elle était essentielle pour moi et importante, et en la racontant, je me suis libérée de quelque chose, surtout quand j'ai vu que le film, finalement, a une carrière incroyable, quoi. Il a fait 200 festivals à travers le monde, il a gagné une soixantaine de prix, il a gagné le César, notamment. Et là, aujourd'hui, vraiment, j'ai fini par me dire, ce qui compte, c'est la sincérité qu'on met en racontant une histoire et l'universalité du propos. De la même façon que moi, j'ai pu m'identifier à tous les personnages que je voyais quand j'étais enfant, tout le monde peut s'identifier aux personnages que je raconte. Enfin, peu importe la langue, peu importe la couleur, peu importe... Ce qui compte, c'est l'humanité qu'il y a derrière une histoire, et voilà.
Ouais, bah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai que souvent, les personnes peuvent ne pas savoir par où commencer. Il y a vraiment cette peur à la fois d'oser et puis de peur de ne pas plaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans toute forme de création ou d'art, si plutôt que de se poser 3000 questions, on s'écoute... Et en fait, c'est fou, quoi. C'est pas du tout forcément la première chose à laquelle on va penser. Ouais. On va penser aux autres. Au lieu de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie de raconter ? Et en fait, je pense vraiment que si c'est sincère, ce sera entendu.
Je suis d'accord. Déjà, le fait de se faire confiance, le fait de croire en soi, parce que je pense qu'on a tous en nous quelque chose de précieux. On peut tous, d'une certaine façon, avoir un impact sur le monde, mais je parle de tous les domaines. Enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je fais du cinéma. C'est parce que j'ai des choses à dire. C'est parce que j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière du système, du monde qui m'entoure. Et je trouve ça génial comme façon de faire entendre ma voix et d'ouvrir des débats.
C'est vrai.
Notamment.
Ouais, c'est comme ça qu'on fait changer les choses. Hein. Ouais. Il y a une question que je me posais aussi, et je pense que peut-être se posent les personnes qui ne connaissent pas très bien l'industrie du cinéma. C'est que moi, je me souviens que c'était une question que je m'étais posée un peu plus jeune. En fait, je me demandais pourquoi des courts-métrages, pourquoi des longs-métrages, quelles sont les différences entre les deux. Du coup, maintenant, aujourd'hui, je comprends mieux, mais est-ce que peut-être pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent la question, tu peux leur dire quelles sont les différences, pourquoi tu as commencé par un court-métrage et ensuite par un long-métrage dont on parlera ?
J'ai envie de dire, le court-métrage, c'est un sprint, et le long-métrage, c'est un marathon. Et ça ne coûte pas du tout la même chose aussi. Le court-métrage, ça commence à être de plus en plus connu, parce que la plupart des réalisateurs, même tous les grands réalisateurs qu'on connaît aujourd'hui, ont commencé par faire du court-métrage avant de passer au long-métrage. Les personnes qui ont envie de faire du cinéma, moi j'ai commencé à faire un court-métrage parce que déjà... raconter une histoire, tu peux avoir une minute, tu peux raconter une histoire en une minute, en cinq minutes, en dix minutes, quinze, vingt, et c'est considéré comme étant un court-métrage jusqu'à 59 minutes, quoi.
D'accord.
Exactement. Donc c'est un vrai challenge. Ça a l'air simple, mais c'est un vrai challenge de faire tenir une histoire en si peu de temps quand le film dure. Pour Maman, par exemple, il dure 20 minutes. C'est un vrai challenge. Et la différence notable, c'est évidemment le temps d'écriture, qui n'est pas la même, et le financement, qui est vraiment pas du tout le même. Pour donner comme ça un ordre d'idée, mon court-métrage Maman a été financé à hauteur de 100 000 euros, et le long-métrage Mignonne, 3 500 000, je crois, oui, c'est ça.
C'est incroyable, c'est pas les mêmes budgets du cinéma.
Oui, alors moi aussi au début, quand je suis arrivée dans le cinéma, j'entendais les budgets, j'avais la tête qui tournait. Je disais, mais c'est pas possible, c'est hyper cher, mais c'est pas... Enfin... Et finalement, quand tu creuses et que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, il faut se dire que l'argent dans le monde du cinéma, on peut pas le considérer comme l'argent dans la vraie vie, parce que tout coûte hyper cher, tout coûte extrêmement cher, les locations du matériel, les caméras, ce qu'il faut. En tout cas, moi, dans mes films, tous les décors sont créés, que ce soit maman ou mignonne. Faut partir du principe qu'au départ, c'était des murs totalement blancs avec des pièces vides.
Ouais.
Donc tout est créé de A à Z. Les couleurs du papier peint sont choisies, les canapés, tout est patiné pour les vieillir. Les costumes, ils sont créés, on choisit les couleurs. Enfin, tout est créé. Et après, enfin, ce qui coûte cher aussi, c'est les techniciens.
Ouais, ouais, et toute
l'équipe. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que les intermittents du spectacle, ils travaillent pas tout le temps. Ils ont des périodes où ils peuvent ne pas travailler. Donc, enfin, tout ça est justifié. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que le cinéma apporte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est quand même 1% du PIB, autant que l'automobile.
Donc, ah oui, j'étais beaucoup dans ça.
Ouais, carrément.
Je préfère regarder un film que rouler en voiture. En plus, alors mon choix est fait. Bah, c'est vrai que niveau équipe, on se rend compte, mais juste à la fin, quand il y a
oui,
tous ces noms
génériques.
Qui passent, quoi. Mais toi, du coup, il y a eu combien de personnes à peu près, du coup, sur Maman et combien de personnes sur Mignonne ?
Sur Maman, en termes de technicien, je pense qu'on devait être autour de 40 personnes.
D'accord.
Sur Mignonne, avec les figurants, il y avait environ 1500 personnes.
C'est dingue.
Ouais, c'est complètement dingue. Ça va très vite, ça monte. C'est pour ça que quand je dis qu'il ne faut pas considérer les sommes, les montants du cinéma comme
ouais,
là, dans la vraie vie, c'est,
ouais,
ça va très vite, 1500 personnes. Et les techniciens, en tout, je pense au moins 150, parce qu'il y a tous ceux qui construisent les décors. Enfin, il y a des décors qui ont été construits avec des charpentes. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a des effets spéciaux.
Mais ça, typique, c'est un truc vraiment qui me fascine et je me dis, est-ce que toi, quand t'écris le scénario, tu penses à tout ça ? Enfin, moi, je trouve que le travail de réalisation est vraiment incroyable parce qu'en fait, c'est à la fois l'image,
oui.
à la fois les mots,
oui.
à la fois le silence.
Exactement, exactement.
Et tout ça, dis-nous quoi, comment ça se passe ?
Et tout ça, faut le penser.
De t'inspirer, tu vois, comment ça se passe, l'écriture d'un film ?
Bah, là, pour Mignonne, en regardant le film, c'est assez fidèle au scénario. Parce que parfois, on peut réécrire un peu un film à la phase du montage.
Ouais.
C'est très fidèle au scénario. Tous les silences qu'on voit dans le film, tous les moments de réflexion existent déjà dans le scénario, à l'étape du scénario. Moi, que ce soit Maman ou Mignonne, j'aime le fait de pouvoir... sentir un personnage et être au plus près de du personnage, entendre sa respiration, presque entendre ses battements de cœur, enfin vraiment être avec le personnage. Tout ce qui est sensation, toucher, une peau caressée, un tissu, le bruit d'un tissu, enfin toutes ces petites choses-là que évidemment le spectateur ne va pas entendre ou voir. Moi, j'adore les travailler parce que j'ai cette sensation de jouer en quelque sorte avec l'inconscient du spectateur. Parce que ça va l'amener à s'identifier davantage à mon personnage principal. J'ai, par exemple, dans Mignonne, donc, qui est cette histoire qui raconte l'histoire d'Ami, hein, un personnage de 11 ans qui est tiraillé entre deux modèles de féminité. D'un côté, il y a sa mère... Qui se résigne à la polygamie, et de l'autre, un groupe de jeunes filles de 11 ans qu'elle rencontre dans son école qui s'appelle Les Mignonnes et qui suivent ces modèles d'hypersexualisation, etc. Mon personnage cherche la femme qu'elle a envie d'être parce qu'elle est à cet âge-là transitionnelle, où elle a envie de se construire, où elle est un peu perdue quelque part. Pour l'écriture cinématographique du film, j'ai vraiment eu comme leitmotiv d'être au plus près du personnage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tout a été pensé pour qu'on soit avec elle tout le temps. Même la lumière d'un film, parce que tout est réfléchi, hein, comment tu choisis les cadres, comment tu choisis la lumière de ton film, je l'ai dit tout à l'heure, les décors, les costumes, etc. Dans Mignonne, tout est pensé pour suivre l'état émotionnel du personnage. Donc au début du film, comme elle rencontre ce groupe et qu'elle est heureuse de les rencontrer, tout est très lumineux, tout est très coloré, c'est vachement, c'est vraiment arc-en-ciel, quoi. C'est pop. Par contre, quand elle est chez elle, au fur et à mesure que le bouleversement familial s'intensifie, on voit que les couleurs commencent à s'éteindre, ça devient plus terne, plus sombre. Et tout ça, évidemment, on ne le voit pas en tant que spectateur, mais ça nous permet de ressentir en fait, ce qu'elle ressent. Ça, moi, j'adore être dans toute cette création-là.
C'est incroyable, c'est vrai, et on sent que c'est très réfléchi. Est-ce que... je me dis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Est-ce que tu penses que... Bon, je pense qu'il y a une partie de talent, j'ai envie de dire, une partie aussi assez innée de... Tu vois, je sais pas si moi j'imaginerais les caresses de main. mais qu'est-ce qui fait peut-être que toi, tu l'as travaillé ou alors que ça devient plus naturellement? Est-ce que t'as travaillé un peu ça ou vraiment ça te vient... tu poses ta plume et ça y est, t'as tout en tête.
Alors, pour tout ce qui est sensation, tout ce dont je parle maintenant, je pense que c'est plus instinctif et c'est une... J'avais un mot que j'ai perdu.
Sensibilité, non ?
Oui, je pense que c'est... En tout cas, c'est ma sensibilité et la façon dont j'aime... mettre en avant le portrait de... la façon dont j'ai eu envie de mettre en avant le portrait de ce personnage, en tout cas de cette petite fille. Je m'explique pas forcément pourquoi, comment, mais oui, en écrivant, je me place moi-même dans la peau de mon personnage. Je fais appel aussi beaucoup à mes propres souvenirs, parce que j'ai eu 11 ans, n'est-ce pas?
Ouais.
C'était un petit moment, hein. Parce que dans ce film, c'est marrant, il y a plein de gens qui me disent qu'elle me ressemble, mon actrice, alors que c'est vraiment, pour le coup, un total hasard. Mais j'ai vraiment fait parler la petite fille qui est en moi. Il y a plein de choses dans le film qui sont inspirées de ma propre vie.
Plus naturellement.
C'est des souvenirs, c'est des souvenirs d'images, des souvenirs de sensations, des souvenirs de perception du monde. Parce que c'est ça que je trouve génial quand on raconte l'enfance, c'est comment, quand on est enfant, on a cet imaginaire sans limite. Et comment on perçoit le monde, surtout à cet âge-là où on a l'impression de le connaître et finalement on le maîtrise pas du tout. On est entre deux, d'un côté elles vont commencer à manger des bonbons comme des enfants et de l'autre elles vont vouloir faire comme les grandes parce qu'elles imitent ce qu'elles voient sans comprendre la signification.
Mais ça, je me suis demandé aussi parce que en effet tu as eu 11 ans, mais c'est vrai que c'était une période assez différente de celle-ci. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait, je pense, pas ou en tout cas beaucoup moins cette hypersexualisation des adolescentes. Qu'est-ce qui a fait que c'est ce sujet dont tu as eu envie de parler? Parce que pour le coup, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est vraiment en constatant ce qui se passait aujourd'hui et un peu comme un sens du devoir, ou est-ce que c'est toi aussi quelque chose que tu as vécu? Enfin, tu vois, c'était un peu pour essayer de saisir, parce que pour le coup, on sent que dans Maman, c'est vraiment que tu as eu envie de parler ou t'exprimer, de parler de ton histoire, mais dans Mignonne, pour moi, tu n'as pas vécu TikTok, Instagram, les danses qui sont hyper sexualisées. Je me demande comment tu as associé à la fois quelque chose que tu as vécu et à la fois quelque chose de tout nouveau qui est vraiment propre à notre génération.
Je ne pense pas que ce soit si nouveau que ça. J'entends par là l'hypersexualisation des petites filles. Je dis ça parce que en tout cas à l'époque, à mon époque, il y avait déjà des images qui allaient dans ce sens-là. On voyait quand même le corps de la femme objectisé pour vendre une bouteille d'eau pétillante. On voyait des clips de musique avec des chanteurs et puis des femmes à côté des voitures au même niveau. Ça existait déjà. Les images n'étaient pas... on n'y avait pas accès de la même façon, mais ça existait déjà. Dans mes souvenirs d'enfant, avec mes copines, je me souviens qu'on dansait quand on avait cet âge-là. On dansait des danses comme le reggaeton, le ragamuffin. C'est quand même assez sensuel comme danse. Après, la grosse différence entre l'époque et aujourd'hui, c'est clair, c'est les réseaux sociaux. Parce que la différence, c'est que quand je dansais avec mes copines, les images existent seulement dans nos têtes, c'est-à-dire dans nos souvenirs. Aujourd'hui, quand tu danses avec tes copines et que tu fais ces danses-là pour imiter les adultes, tu te filmes et tu t'exposes. tu t'exposes sur tous les réseaux sociaux, je ne vais pas les citer, on les connaît tous, hein. C'est vraiment très 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 courant. Et surtout, il y a une forme de surenchère qui se joue parce que comment avoir le plus de likes, comment avoir le plus de followers, comment avoir quelque part le plus d'amour, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est la nouvelle forme d'amour que tout le monde cherche. On est déprimé quand on n'a pas plus de 3 likes en une heure. Et puis quand on en a, on est super content, on a l'impression qu'on existe et que... Enfin, on construit quelque part notre estime de soi à travers le regard des autres, de personnes qu'on ne connaît pas, de façon virtuelle. Mmh. Et quand t'as 11 ans, bah, tu te dis, mais quel est le modèle que j'ai face à moi ? Quand je regarde les réseaux, quand je regarde les médias, les femmes, les adultes, sont plus elles sont objectisées, plus elles ont de la valeur. Plus elles semblent avoir de la valeur, plus elles semblent avoir de l'amour, entre guillemets, parce qu'elles ont tellement de likes et de followers. Et donc, ces enfants-là, ce que je raconte avec mon film, hein, elles imitent, elles font la même chose, dans l'espoir d'avoir le même résultat. Donc, elles vont commencer à danser de façon sensuelle, pour publier sur les réseaux, et puis ça marche. Ça marche, elles ont des likes, sauf qu'elles n'en perçoivent pas la dangerosité et les conséquences que ça peut avoir.
Donc toi, c'était vraiment plus ce sentiment de devoir mettre en garde ou de vouloir mettre en garde ?
En faisant le film ?
Ouais, en choisissant de traiter le sujet de l'hypersexualisation des adolescentes.
Alors, donc je parlais de mon enfance, mais le moment où l'idée m'est réellement venue, c'est dans une fête de quartier. J'ai vu des petites filles qui dansaient de façon extrêmement lascive, sensuelle, avec des vêtements courts et elles avaient 11 ans. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais perturbée parce que je me suis dit, est-ce que ces petites filles, elles ont conscience de ce qu'elles renvoient à travers cette danse, la façon dont elles bougent leur corps, la gestuelle. Et j'ai décidé de m'intéresser à ce sujet, surtout à ces enfants. J'ai décidé de les écouter. Donc j'ai passé un an et demi à faire un peu comme toi, là. Des podcasts. Non, c'était pas des podcasts, mais je faisais des enregistrements, soit audio, soit je faisais des vidéos quand j'avais l'autorisation, quand c'était dans des écoles ou des associations. Sinon, j'arrêtais les filles dans la rue. On se prenait une petite glace sur l'herbe dans un parc. Et elles me racontaient. Et j'ai entendu tellement d'histoires qui m'ont bouleversée, quoi, qui m'ont remuée. J'ai compris à quel point ça pouvait être difficile pour ces petites filles de se construire et de trouver leur place en tant que femmes, de dealer avec leur féminité naissante à l'heure des réseaux sociaux, enfin dans cette société moderne. Et j'ai fait ce film avant tout pour les raconter, pour leur donner la parole. Je l'ai fait avant tout pour qu'on les comprenne et pour que nous, on se remette en question. En fait, Mignonne, c'est un miroir, quoi. C'est un miroir de la société qui est pas toujours facile à voir, mais qui est tellement, tellement, tellement réel.
Et tellement nécessaire.
Ouais.
Non, mais tu vois, moi, je me demande, en fait, what's next ? Parce que on peut pas continuer, à mon avis, comme ça. Et qu'est-ce que ça va être de plus en plus jeune, de plus en plus fort, de plus en plus nu ? Enfin, tu vois, je me demande
vraiment...
J'ai
une confidence
vraiment...
à te faire. Lors de mes enquêtes, moi j'ai entendu des histoires que je n'ai même pas osé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on voit dans Mignonne, c'est complètement inspiré de toutes les histoires que j'ai entendues. Donc, c'est vraiment inspiré de faits réels, quoi. Et il y a des choses que j'ai entendues que je n'ai pas osé raconter parce que je pense que j'en avais pas le courage artistique. Ou en tout cas, ça allait beaucoup trop loin pour moi. Et moi, j'ai décidé de me limiter à la mise en scène, en tout cas la représentation sur les réseaux, etc. Et j'ai entendu, par exemple, j'ai rencontré même des petites filles de 10 ans qui prenaient en photo leur sexe, qui faisaient payer les garçons. J'ai vu aussi des petites de 12 ans qui se prostituaient. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi ce fléau-là qui existe et qui commence de plus en plus tôt. Avec une nouvelle mode des escort girls, parce que voilà, le nouveau sac à la mode, les chaussures, de l'argent, et ça existe dans de nombreux milieux sociaux. Alors là, ça va au-delà des quartiers, de toute façon dans Mignonne, je l'ai pas inscrit dans une cité, ça va au-delà. Il y a plusieurs milieux sociaux qui sont dépeints, Et c'est vrai qu'en voyant tout ça, je me suis dit, je ne vais pas le raconter comme ça, je vais me limiter à la façon dont elles, en tout cas, elles vont s'exposer à travers cette danse, etc. Mais par ricochet, on sera obligé de parler de tout ça, en fait.
Ouais.
Parce que quand tu me dis « what's next ?», ouais, clairement. Moi, ce que je veux, c'est qu'avec ce film, on soit obligé de faire quelque chose, mais tous ensemble. Parce qu'il en va de notre responsabilité à nous, artistes, à vous, médias, aux politiques, aux parents, au système éducatif. Tout le monde doit prendre à bras-le-corps cette problématique et faire quelque chose. Mmh. Moi, je n'ai pas fait un pamphlet ou un documentaire. C'est une histoire, d'abord, que je raconte. Parce que j'aime bien l'idée de passer d'abord par des émotions extrêmement fortes, vivre une expérience avec un personnage dans un film, pour, une fois que le film est terminé, se poser et se dire, OK, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Mmh. On passe à l'action pour protéger nos enfants.
Mmh. Bah, je pense que l'émotion est le levier d'action le plus fort.
Oui.
Malheureusement, dans nos sociétés, c'est plus l'argent parfois qui dirige. Mais pour moi, si... En effet, des politiques, des personnes qui gèrent ces plateformes, parce que moi, il y a une grosse responsabilité, je pense, de la part de ces plateformes. Tu vois, s'ils voient ton film et qu'ils ont cette émotion, on peut pas... Ils l'ont vu, en plus.
Oui.
Ouais, bah, j'imagine ça, qu'il y en a beaucoup, je pense, qui... Bah, pour moi, une fois qu'on a cette réalisation et cette émotion, on peut plus faire comme si... Ou alors c'est difficile pour soi, hein, de vivre avec soi, quoi.
Oui, il y en a qui veulent pas voir la réalité, ils disent que ça n'existe pas, mais c'est sûr que... En faisant comme si ça n'existait pas, c'est pas comme ça qu'on va solutionner les choses. Le film a été vu par la ministre, Madame Elisabeth Moreno, à l'égalité homme-femme, également par le secrétaire d'État de la protection de l'enfance et des familles, Monsieur Adrien Taquet. Et ils en ont parlé, même publiquement, en disant que c'était un film coup de poing, un film poignant et un film pédagogique. Qui avait vocation à être justement utilisé pour sensibiliser sur tous ces sujets pour lesquels ils se battent
au quotidien. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi j'attends plus de la part des plateformes elles-mêmes. Par exemple, Instagram, ils ont commencé à cacher le nombre de likes. Et ça vient
c'est
justement.
C'est pas partout ça.
C'est pas partout. Moi c'est vrai que je les ai encore,
c'est
mais.
Dans quel pays ? Parce que j'avais entendu
ça.
J'ai
plein d'amis qui n'ont plus les likes sur Instagram. Ouais. Où il y a marqué. Telle personne et des milliers d'autres ou des centaines d'autres ont aimé ce post. Et moi, j'avais discuté avec les responsables Instagram en France et c'est des personnes qui sont très concernées et ils avaient dit clairement que ce changement avait été mis en place parce qu'ils se rendaient compte du pouvoir que pouvait avoir le nombre de likes dans une école et qu'il y avait du bizutage parce que tu n'avais pas eu assez de likes sur une photo. Et moi, vraiment, ça m'avait surpris parce que pour le coup, j'utilise les réseaux, mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut en faire, en fait. Donc, ça peut à la fois être une chance, à la fois le contraire d'une chance. Donc, voilà, moi, j'essaie de l'utiliser à bon escient et je sais que ça peut aider énormément de gens du message que je partage ou des valeurs que j'essaie de partager. Donc, ça, j'avais été vraiment surprise quand ils m'ont dit qu'ils avaient entendu dans des écoles que si la personne n'avait pas atteint 100 likes sur sa photo, le lendemain, on sautait de sa gueule, que du coup, il était obligé de la supprimer. Et vraiment, c'est vrai que je suis tombée un peu de haut, mais en même temps, si moi j'avais eu les réseaux au début du collège...
Et j'ai l'impression que l'impact, il va au-delà de l'enfance, l'impact des likes. On sait que de nombreuses personnes finissent en dépression, parce que quand tu regardes déjà toute la journée, quand tu fais toute la journée du scrolling et que tu vois que tous tes amis, en tout cas tes amis virtuels en partie, sont extrêmement heureux, partent tout le temps en vacances, sont tous super amoureux, mangent dans des restos incroyables. Enfin, tout le monde a une vie magique
sur le papier.
Et c'est des gens qui, en partant en vacances, vont pas prendre le temps de regarder avec leurs yeux et ils vont être toujours à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir publier, de quel est l'angle avec lequel je vais avoir la meilleure image pour pouvoir poster, pour avoir le plus de likes. Enfin, je trouve ça
c'est
tellement...
Un peu une
mais, c'est une forme de prison, quoi. Et c'est une nouvelle forme de drogue, parce qu'en plus, le corps, il sécrète vraiment de la dopamine.
Ouais.
Hein, quand t'as des likes, t'es là, oui, génial, on m'aime. Et quand t'en as pas, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et les gens finissent par déprimer. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative.
Ouais,
ça
ouais.
va faire déprimer plein de gens au départ, parce que c'est comme ça va être comme une cure, quoi.
Ouais.
Une cure de désintox de likes. Je pense que plein de gens, ça va leur faire bizarre de plus savoir s'ils sont aimés ou pas, parce que c'est ça, hein, c'est comme ça que c'est perçu. Mais au final, je pense que ça sera pas plus mal. Hein,
je pense aussi, non, mais
parce
comme
qu'avant,
tu dis...
on n'avait pas ça. Hein, donc comment...
J'ai du mal à me souvenir de comme c'était avant, parce que Bah, c'est vrai que ça prend une part tellement importante de nos vies. Bon, dans mon cas, parce que je suis créatrice de contenu, parfois je me dis, mais la vie devait être tellement simple, en fait. T'avais ouais. besoin de prouver, t'avais rien besoin de prouver à personne. Après, t'avais d'autres combats, et voilà. Donc, je pense que c'est un peu comme tout. On savait pas comment c'était avant, quoi. Je pense que mes parents, ils se demandent comment ils faisaient avant son téléphone. Nous, on a un peu toujours vécu avec, tu vois. Donc, mais après, bon, moi, je continue à dire que je pense que ça peut aussi faire beaucoup de bien. Moi, je sais que j'ai énormément appris, tu vois, sur le féminisme, sur l'inclusivité, grâce aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut très bien choisir les personnes qu'on suit. Et on a tous un rôle, en fait, hein, de comment on veut l'utiliser. Et perso, moi, l'année dernière, j'avais lancé un mouvement qui s'appelle On veut du vrai, un hashtag et un compte, justement parce que j'avais vraiment un réel ras-le-bol de cette course à la perfection et à la. Parce qu'en fait, ça se répercute dans tout le niveau. C'est-à-dire que si tu poses des photos parfaites, les marques vont vouloir des photos parfaites, donc tu vas devoir faire des photos parfaites. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Et comme avant, c'était les médias qui avaient les marques même qui avaient le pouvoir. Aujourd'hui, honnêtement, c'est vachement plutôt de notre côté, du côté des créateurs et des créatrices de contenu. Donc si nous, on leur fait comprendre que non, on va pas retoucher nos photos, que non, on veut pas que nos photos soient retouchées, et ça marche, et ben en fait, là, elles vont devoir s'aligner, quoi. Donc je pense
qu'en effet, il faut faire du bruit. C'est une belle façon de s'engager contre ça, parce que tu parlais de créateurs de contenu ou même de modèles. Moi, tout mon travail il va aussi vers cette création, enfin en tout cas cette mise en avant de modèles aussi, de rôles modèles différents. Parce que, encore une fois, je pense beaucoup aux enfants. On le voit dans mes films. Et à leur construction, à leur projection dans l'avenir. Et le fait de voir toute la journée, le fait d'avoir des modèles différents de femmes, ça va les aider à élargir le champ des possibles. Et se dire, parce que moi, j'ai vu des petites aussi qui faisaient des régimes, se pesaient tous les jours. J'ai rencontré une petite qui... quand je dis petite, c'était petite. Elle devait avoir 10 ans, qui mangeait à la cantine juste un yaourt. Et pour cacher la faim, elle mangeait du coton. Pourquoi ? Parce qu'elle se pesait. Enfin, il y avait toute cette pression. C'est une telle pression sociale pour la construction des femmes. Je trouve que ce système-là patriarcal, il est d'une puissance. Il est tellement ancré. Il est même perpétué par les femmes elles-mêmes. Et c'est cette remise en question-là que j'ai envie de provoquer. Et je suis contente de voir que le gouvernement français aime le film, que le public aussi, parce que et la presse aime le film. Je pense qu'on va être amené à parler de la polémique, parce que je pense que c'est quoi.
Alors, j'en ai entendu parler, mais que récemment. C'est-à-dire, je t'ai contactée avant la polémique. Je crois que c'est ma sœur jumelle qui m'a dit.
T'as une sœur jumelle ?
Oui, j'ai une sœur jumelle.
Vrai ?
Non, une fausse jumelle. Ouais. J'aime pas trop le terme fausse, parce que je
sais pas comment dire, mais
on n'est pas identiques. D'accord. Mais aussi un sujet intéressant dans la construction de soi et l'identité, parce que dans notre cas, c'est vrai qu'on a tendance à avoir été très associés et un peu vouloir être vendu comme un lot. Enfin, pas nous, mais la famille. Et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc, aujourd'hui, on est très différentes.
Le fait d'être différente, ça a dû aider, non ? Parce que quand vous êtes pareil, ça doit être vraiment le
lot. Ouais. Du coup, nous, on était. En fait, c'est plus par facilité, tu vois, que les parents vont. C'était toujours les jumelles. Ouais. Donc, on faisait les mêmes activités, donc on devait faire les mêmes sorties, donc on devait s'habiller
pareil.
Alors,
vous n'avez pas le même tempérament.
Alors, on n'a pas du tout le même tempérament. Donc, après, quand ils ont commencé à comprendre, plus on a grandi, plus on s'est affirmé.
Toi, t'as quel âge ?
Moi, j'ai 23 ans.
23 ans.
Et c'est vrai que, heureusement, on l'a assez bien vécu. Aussi parce qu'on a des personnalités très complémentaires. Mais du coup, oui, c'est elle qui m'a dit, mais t'as pas vu ? Donc, c'est sur Netflix, en effet, il a été mis sur Netflix dans le monde. C'est ça, je crois. Et ce qu'elle m'a dit, et du coup, dans d'autres pays. C'est jugé choquant, quoi.
Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la base, le film a commencé sa carrière au festival de Sundance, qui est le plus grand festival de films indépendants des États-Unis, où il a gagné le prix de la meilleure réalisation. Ensuite, il était à Berlin, où il a gagné une mention spéciale du jury international. Ensuite, il y a eu le coronavirus, n'est-ce pas ?
Surprise !
Ensuite... on a préparé la sortie avec des avant-premières qui sont extrêmement bien passées avec le public français, la presse aussi. On a quand même une bonne presse autour du film, donc tout se passait très bien, n'est-ce pas ?
Ouais.
Et Netflix a acheté les droits du film pour le reste du monde, sauf la France. Hein. Pour la France, il est au cinéma. D'ailleurs, il est en ce moment même au cinéma. Et pour le reste du monde, il a acheté les droits et dans les outils de communication utilisés. Ils ont utilisé une affiche qui est un espèce de montage du spectacle final où les filles sont sexualisées. Sauf que l'utilisation de cette affiche a laissé croire aux Américains qui l'ont vu donc lors de la promotion, enfin de l'annonce de la date sur Netflix, de la sortie, ils ont pensé que en tant que réalisatrice, je sexualisais les enfants comme une forme d'apologie à la libération des femmes. Comment vous dire ? Et ça allait même plus loin que ça, parce qu'ils ont en tout cas imaginé que je faisais que je bannissais la religion musulmane pour laisser place à la sexualisation des enfants. Enfin
bref, un résumé. Ah ouais, non mais alors comment déformer ton combat, oui, ton message ?
Alors que c'est tout mon combat, justement.
Ouais.
Et donc là, c'était assez fou. Après, bon, je pense que tu as dû voir aussi, Netflix s'est excusé publiquement parce que les images n'étaient absolument pas... Enfin, ne reflétaient pas le propos du film. Et puis, bon, bah, y a eu raz-de-marée des pétitions... des gens qui ont voulu que le film soit retiré alors qu'ils ne l'avaient pas vu. Et ensuite, y a quand même beaucoup de... Enfin, toute la presse internationale qui est montée au créneau pour défendre le film et dire on a vu le film. Justement, la réalisatrice, voilà son parcours, voilà son histoire, voilà pourquoi elle a fait ce film, les 1 an et demi d'enquête. C'est justement ce qu'elle est en train de dénoncer, clairement. C'est une dénonciation de notre système, donc ne vous trompez pas de combat. Et donc la presse, toutes les personnes qui avaient vu le film aussi à Sundance, à Berlin, et puis là, les Français quoi, qui avaient du accès au film, heureusement, sont montés au créneau pour dénoncer, enfin pour défendre. Et donc voilà, et entre-temps, le film est sorti sur Netflix. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré un extrait de danse, de la danse finale, mais sorti du contexte. Donc on ne voit pas toute l'évolution du personnage, on ne comprend pas pourquoi elle arrive là. Et donc, bon, bah voilà, ça, du coup, la polémique continue. Les gens qui pensent que c'est une apologie que je fais.
Mais donc, Netflix s'excuse et après, il en ajoute une couche. Parce que je ne comprends pas trop. Une fois qu'ils se sont rendus compte que.
C'est pas Netflix qui a sorti la scène, c'est des gens
d'accord.
qui ont filmé la scène sur Netflix.
D'accord.
Et qui, du coup, sans regarder le film, hein, je pense qu'ils ont cherché les trucs.
C'est fou.
Et donc, les gens regardent cette séquence, ne veulent plus pas voir le film et attaquent le film et ma personne.
Et le fait que, je sais pas, ils ont pas mis... normalement, il y a une espèce de synopsis du film.
Oui, mais justement, le synopsis n'aidait pas non plus.
D'accord. Et donc ça, toi, t'as pas de droit de regard ni sur l'affiche, ni sur le synopsis choisi.
Alors, c'est pas que j'ai pas de droit de regard, c'est que je n'ai pas vu ces éléments. Que je les ai découverts...
quand ils étaient déjà en ligne.
Bah, ouais. Je les ai découverts après. Quand j'ai vu, je me faisais attaquer, je comprenais pas pourquoi.
Ouais.
Je comprends pas. Moi, mon film, tout se passe bien.
Ouais.
Au contraire, les gens, ils sont contents d'avoir un projet. Enfin, en tout cas, ils sont contents d'avoir cette œuvre-là pour pouvoir l'utiliser, sensibiliser, justement, en parler, quoi, s'emparer de ce sujet. Donc, je comprenais pas. Et après, bah, j'ai fait quelques recherches. Et là, je dis, ok, d'accord, je vois. Parce que j'ai vu les gens qui ont résumé mon film. En disant la réalisatrice veut absolument sexualiser les enfants, c'est génial. Enfin bref, donc c'est devenu le résumé.
Et comment tu le vis ça, toi ? Parce que il y a cet adage qui dit il n'y a pas de mauvaise presse. L'important, tu vois, c'est qu'on en parle. D'un autre côté, enfin, je me mets à ta place. Quand on a un combat, des valeurs, je trouve que le fait de déformer, c'est un peu la pire chose qui peut nous arriver parce que ça nous touche directement. Et moi, dans ce moment-là, j'ai tendance à vouloir me justifier, enfin, oui. Leur dire vous n'avez pas compris.
Regardez mon film.
Ouais, vraiment. Et donc comment continue, parce que d'un autre côté j'imagine que tu savais et limite c'est ce que tu voulais que le film fasse débat et que ça ouvre
oui,
au moins ça a ouvert la discussion
sûr.
Tu
oui,
vois.
C'est sûr que pour le coup là ça a ouvert la discussion bel et bien moi enfin oui au départ c'est sûr que je trouve ça enfin j'ai trouvé ça assez injuste, je me suis dit mais c'est justement ce que je dénonce, enfin là je n'ai pas inventé quelque chose, je raconte ce qui existe dans la société, où vous prenez vos téléphones, allez sur les réseaux et vous allez voir des millions et des millions, voire des milliards des images d'enfants sexualisés, c'est justement ce que je dénonce. Et encore, je ne vais pas au niveau auquel ça existe dans la société. Donc, je t'en parlais tout à l'heure, notamment prostitution infantile, enfin bref, qui est un gros fléau, et l'accès à la pornographie, enfin bref, je pense que c'était plein des choses que j'ai pu voir et qui m'ont heurté, choqué et révolté. Non, mais ce que je me dis, c'est que si finalement tout ça peut servir à mettre en lumière ce phénomène de l'hypersexualisation, mais vraiment le mettre en lumière et vraiment faire passer tout le monde à l'action pour protéger nos petites filles et nos garçons, parce que ça concerne tout le monde, bah, j'aurais gagné quoi. Parce que ça va au-delà de mon film, mon combat il va au-delà de mon film, c'est un combat que je fais. Tout à l'heure on parlait de sincérité, que j'ai fait avec mes tripes, j'ai fait de façon hyper sincère et de façon extrêmement engagée. j'ai une très belle presse, enfin, française, même internationale.
Pour ceux qui l'ont vu.
Pour ceux qui l'ont vu, qui qualifient le film comme un film nécessaire, un film engagé, un film féministe, un film important. Et donc oui, j'ai envie de dire aux gens déjà qui ne l'ont pas vu d'aller le voir. Il est au cinéma pour ceux qui sont en France, pour ceux qui ne sont pas en France, d'aller le voir, de le voir sur Netflix. Et puis ils comprendront qu'on a le même combat.
Ouais. On parlait du fait que tu aies rencontré autant de petites filles pour préparer le film. Ensuite, du coup, tu as choisi notamment 5 actrices principales. Ouais. Je me suis vraiment demandé aussi en regardant le film... est-ce que c'est pas trop dur de faire jouer des filles aussi jeunes? Enfin, moi, tu vois, je m'en vois à 11 ans, je sais pas du tout. Enfin, je pense que je n'aurais pas été capable de jouer dans un film, incarner un rôle qui n'est peut-être pas nous-mêmes. Et où, en fait, toi, tu devais à la fois endosser le rôle de réalisatrice professionnelle, mais presque aussi maternelle.
Extrêmement bien résumé, je trouve, parce que c'est vraiment ça. J'étais à la fois réalisatrice et maman, quoi. J'étais les deux à la fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été d'abord un casting assez intense, parce que 700 petites filles ont été castées pour ces rôles, et à chaque fois, bah, c'était une évidence parce qu'elles ont chacune un don, quoi, une spontanéité, la lumière quand on les filme tout de suite, il y a quelque chose, elles accrochent. La lumière, le regard, on a qu'une envie, c'est de les regarder. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai vu les vidéos de casting, et je me suis tout de suite dit, elles correspondent au personnage que j'ai écrit dans cette histoire. Pour les diriger, c'est vrai que ça a été tout un travail en tant que réalisatrice pour faire en sorte que ça devienne un jeu pour elles. Donc j'ai dû inventer des choses, comme par exemple le fait de faire correspondre chaque personnage à un animal. Donc il y a par exemple le personnage de Jess, la blonde, elle, c'est un ours. Le personnage de Angelica, c'est un serpent. Le personnage d'Ami, c'est un chaton qui devient un chat, qui devient une panthère noire. Enfin, du coup, ça les a aidés à trouver la respiration de leur personnage, la façon dont le personnage se tient. Pardon. La façon dont le personnage se tient, la façon dont le personnage respire, regarde, se comporte. Et puis, j'ai aussi inventé un champ lexical pour communiquer avec elle sur le plateau. Par exemple, quand je voulais intervenir pendant le tournage, je leur disais « chips ». Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont extrêmement gourmandes. Donc, quand je disais « chips », ça voulait dire « on se fige, on bouge plus », comme un, deux, trois soleils. Donc là, elles se figeaient, je donnais mon indication, et ensuite, je disais « hamburger ». Et quand je disais « hamburger », là, ça voulait dire « ok, vous pouvez continuer ». Quand je voulais plus d'énergie, je disais pastèque. Quand je voulais qu'elle triche en offrant un peu plus son visage à la caméra parce qu'elle est trop de dos, mais on a appris à le faire de façon hyper naturelle, c'est-à-dire elle continue à parler et puis tout à coup son visage se tourne, mais on s'en rend pas compte. Ça, pour ça, je disais coco. Enfin bon, bref, plein de petits mots comme ça assez ludiques qui permettaient de communiquer de façon fluide. Et puis après, je leur ai laissé quand même beaucoup de liberté. Moi, je faisais en sorte qu'elle trouve ce lâcher prise, quoi. Qu'elle s'habitue déjà à avoir la caméra tout le temps. Pendant les répétitions, je filmais tout, pour qu'elle s'habitue à être filmée et qu'ensuite,
ouais, elle... Que ce soit pas une barrière.
Oui, c'est ça, qu'elle lâche prise et surtout qu'elle prenne la liberté. Moi, je vous ai dit de faire ça. Si toi, t'as envie de faire autre chose, tu le fais. Tant que ça va dans le sens de la scène, tant que tu sais ce que t'as à faire, ce que t'as à dire... Si tu as envie de changer la phrase que je t'ai donnée, parce que tu penses qu'elle sortirait mieux à ce moment-là de cette façon, parce que ta pensée va plus dans ce sens-là, bah, dis-le, quoi. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça.
Ouais, ouais, des stratégies à mettre en place pour... je pense pour ne pas les effrayer, et que, comme tu dis, elles se sentent... je pense que quand tu te sens en sécurité, en confiance, c'est plus simple de s'exprimer, quoi. Bon, ça se ressent dans le film, je trouve.
Ouais, la confiance et la liberté. Moi, j'ai fait en sorte qu'elles se sentent complètement libres. De s'exprimer, de se déplacer. C'était jamais elle qui devait s'adapter à la caméra, mais c'est toujours la caméra qui s'adaptait à elle. Donc
ça s'est bien passé.
Ouais, ça s'est très bien passé. Elle était très 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 à l'aise. Il y a des jours où il y avait même un jour il y avait des acteurs qui étaient donc tout nouveaux, parce qu'elle faisait une scène avec eux, Et comme il y en a un qui était un peu timide, elle se moquait, elle était là, oh, regarde, il est timide, alors que, enfin, pour elle, c'était, on dirait qu'elles ont fait ça toute leur vie, quoi.
Ouais, ouais. C'est là où on a senti qu'elles étaient à l'aise et qu'elles étaient en confiance.
Vraiment, et puis entre elles, c'est un gang. Hein.
Ok, maintenant elles sont amies et tout.
Oui, oui,
elles se connaissaient avant ou...
Pas du tout, mais on a été en vacances ensemble, on a fait des sorties, beaucoup de sorties, des foires du trône, pour justement qu'elles... pour créer cette unité de groupe et... On est très proches. Aujourd'hui, on a un groupe WhatsApp. Ça nous arrive de nous voir. On se parle quasiment tous les jours, en fait.
C'est trop cool.
Ouais.
Et je me demande aussi à quoi ressemblent tes journées, parce que j'imagine que ça doit être très différent selon la phase dans laquelle tu es, la phase d'écriture, la phase de tournage, la phase de promotion. Comment tu t'organises au mieux, quoi ? Et est-ce que c'est pas compliqué de tout gérer ?
Surtout que je suis en train d'écrire mes prochains films en même temps.
D'accord.
C'est sûr que ouais, c'est pas simple tous les jours, mais bon, c'est une question d'organisation. Et moi, je me dis, bon, tant que tu fais un métier qui te fait vibrer, tu fais un métier que tu aimes profondément, je compte pas. Enfin, il n'y a pas de 35 heures. Hein, là.
Vraiment.
Là, pendant le tournage, moi, j'ai fait un bébé. En fait, j'ai eu ma fille en même temps que mon film.
D'accord. Mignonne ou...
Mignonne, ouais.
Ok.
Donc, j'ai fait ma fille qui a 2 ans maintenant en même temps. Et j'étais enceinte. Je me suis jamais arrêtée. Congé maternité, je connais pas.
Ouais. J'espère pour le prochain.
C'est ça. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec elle. Je faisais mes rendez-vous chez les distributeurs avec ma fille que j'allaitais dans les bureaux qui avaient 6 jours, enfin des trucs en mode woman warrior.
Ouais, ouais, ouais. Bah, comme tu dis, c'est là où toi t'avais envie d'être.
Ouais,
moi,
c'est
je
là
suis
où
pour qu'on lève aussi ces espèces de préjugés qu'il peut y avoir, de jugements, souvent
femmes,
de la part des femmes, on en parlait tout à l'heure.
Des mères, des mamans,
ouais.
Oui.
Comme s'il y avait une façon de faire, alors qu'il y a autant de façons d'être mère que de mère dans ce
monde.
Et puis
c'est compatible, quoi. C'est vrai qu'il y a des femmes qui disent, je vais pas faire d'enfant, je choisis ma carrière. Après, chacun a son choix. Le plus important, c'est de respecter la liberté,
ouais.
Le choix de la femme. Mais que les autres viennent avoir ce regard critique, ça, c'est sûr que c'est insupportable. Mmh. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai décidé en tout cas de faire mon film et de faire mon bébé. Et j'ai réussi à faire les deux.
Mmh.
Et je suis encore
là aujourd'hui.
Je suis encore là, quoi.
Pour terminer, j'aimerais qu'on parle de cette industrie cinématographique. Je me demandais comment toi, tu t'y sentais dans ce milieu où, d'après les chiffres, il y a entre 10 et 20% de femmes réalisatrices. Est-ce que tu ne te sens pas parfois comme un poisson hors de l'eau ?
Alors moi, c'est marrant parce que quand on parle de justement tous ces plafonds de verre, au départ j'en riais, j'ai combien de plafonds de verre, quoi ?
Ouais, c'est cool.
J'en ai pas qu'un, j'ai pas que celui de ma féminité. Je pense que ces chiffres, c'est important de les avoir en tête, c'est important de qu'on les
mette en avant.
Oui, c'est ça, ouais. C'est important qu'on les mette en avant. Maintenant, j'ai aussi cette sensation qu'il y a de plus en plus, et c'est une très très bonne chose, hein, une volonté que ces chiffres-là changent, qu'il y ait plus d'inclusion de la part des institutions du cinéma français. Parce que ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a beaucoup de... Par exemple, quand on regarde une école comme la FEMIS, il y a plus de femmes à l'école, donc réalisatrices, on est à 60%. Mais au final, quand on regarde le nombre de... Quand on regarde les films à l'arrivée, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de films réalisés par des femmes. Donc c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé sur ce chemin-là. Essayer de comprendre aussi, même en amont, le fait que peut-être des jeunes filles ont peut-être cette vocation ou ce rêve et n'osent pas y aller, ou en tout cas n'ont pas l'opportunité. C'est comment créer des opportunités de plus en plus tôt. Comment aussi... moi, je pense que c'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut changer et qu'il faut apporter de l'inclusion. C'est... Quand le film existe, c'est le résultat. Mais avant le film, il y a les producteurs, il y a les scénaristes, il y a les distributeurs, il y a les responsables de chaîne. Enfin, c'est toutes ces échelles-là qu'il faut qu'il y ait plus de femmes, qu'il faut qu'il y ait plus d'inclusion, il faut qu'il y ait plus de diversité, de représentation, etc. Et je pense que ça s'en ressentira au niveau sur les écrans, quoi.
Ouais, ouais, dans les œuvres.
Ouais.
Écoute, je vais te poser du coup deux dernières questions. D'abord, est-ce qu'il y aurait une ressource que tu aurais envie de partager aux personnes qui nous écoutent ? Ça peut être un film qui t'a marqué, ça peut être un livre que tu as envie de recommander, voilà, une œuvre qui t'a touché, ce que tu veux.
Peu importe l'œuvre.
Peu importe, vraiment.
Un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, qui m'avait déjà profondément bouleversée, qui fait partie de ma liste de top des films, c'est Le Tombeau des Lucioles.
D'accord, je ne l'ai pas vu.
Désolée, je plombe un peu l'ambiance. Non, c'est un film magnifique. C'est un film culte.
Mais déprimant.
Culte, beau, fort.
D'accord.
Et important.
Ok.
Parce que ça raconte déjà un phénomène historique, mais à travers une histoire extrêmement, extrêmement forte. Mais oui, on pleure.
D'accord. Bon.
Mais bon,
je préparais les mouchoirs à côté.
Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il me vient en tête.
Ouais. Je vais te poser du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie. Alors, prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est... je sais quoi, c'est en un mot ou c'est...
Autant que tu veux.
Autant de mots que je veux. Enfin, la façon dont moi j'essaie de prendre le pouvoir de ma vie, c'est que je me donne rendez-vous avec moi-même quand j'aurai 99 ans. Et je me dis qu'à ce moment-là, je veux être capable d'être fière de moi. Je veux pouvoir me dire, tu as eu un impact sur le monde. Tu as changé le monde grâce à tes œuvres. Tu as fait exactement ce que tu avais envie de faire. Tu as rendu des gens heureux. Tu as été toi-même heureuse. Je suis fière de toi. Et je pense que prendre ce rendez-vous avec soi-même nous permet de passer à l'action. Tout de suite.
C'est super beau. Ah, vraiment, c'est... Je garderai ces mots en tête. Bah, merci beaucoup, Maïmouna, d'être venue sur InPower.
Merci à toi.
De nous avoir partagé ton parcours, ton histoire.
Un plaisir.
C'était vraiment un super échange. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes actus, où est-ce qu'on les redirige ?
Sur ma page Instagram.
Pour le coup, c'est maïmouna.doucouré, je crois.
Ou maïmouna.doucouré.
Ouais, je mettrai ça dans les notes du podcast. Et du coup, en salle, pour voir Mignonne, si l'on peut encore vu.
Il est encore en salle, encore au cinéma. Exactement.
Super.
N'hésite pas à aller le voir.
Merci beaucoup, Maïmouna. À bientôt.
Merci à toi. À bientôt.
Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Maïmouna. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @maïmouna.doucouré et @mybetterself. Pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qu'il pourrait inspirer et écouter les précédents épisodes du podcast que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion d'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est peut-être que cet épisode vous a plu, aidé ou inspiré, et si c'est le cas, alors j'en suis vraiment heureuse. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'InPower.